Première partie. Les alpinistes. Au sommet du Cervin, le choix est clair. Un faux pas à gauche et on meurt en Italie. Un écart à droite et on meurt en Suisse. Nous sommes tous les trois en train de déjeuner au sommet du Cervin quand nous apprenons la disparition de Mallory et d'Irvine dans l'Everest. C'est une journée splendide de la fin du mois de juin 1924. Et l'information se trouve dans les pages d'un journal anglais vieux de 3 jours, avec lesquels une employée de la petite auberge du Breuil, en Italie, a emballé nos sandwichs de bon pain frais au roast beef et réfort. Sans le savoir, j'ai porté cette nouvelle encore immatérielle, mais qui va bientôt nous peser lourdement, jusqu'en haut du Cervin, dans mon sac à dos, à côté d'une outre de vin, de 2 bouteilles d'eau, de 3 oranges, de 30 mètres de corde d'escalade et d'un gros salami. Nous ne remarquons pas tout de suite le journal, ni ne lisons la nouvelle qui va changer notre journée, absorbés comme nous le sommes par le sommet et la vue qu'il nous offre. Ces 6 derniers jours, nous n'avons fait qu'escalader encore et encore le Cervin, en évitant toujours le sommet pour des raisons seulement connues du diacre. Le premier jour, partant de Zermatt, nous avons exploré l'arête du Hörnli, la voie empruntée par Whymper en 1865, en délaissant les cordes et les câbles fixes qui balafrent la paroi de la montagne comme autant de cicatrices. Le lendemain, nous avons traversé pour passer l'arête de Smoot. Le troisième jour, une longue journée, nous avons une fois de plus escaladé du côté suisse via l'arête du Hörnli, traversé la face nord friable juste au-dessous du sommet que le diacre nous avait interdit, avant de redescendre par l'arête italienne pour regagner au crépuscule nos tentes sur les hauts pâturages verdoyants du versant sud, vers le Breuil. J'ai compris après le 5e jour que nous marchions dans les pas de ceux qui avaient fait la randonnée du Cervin. Edward Whymper, l'artiste alpiniste de 25 ans, et ses 3 compagnons anglais, le révérend Charles Hudson, le pasteur de Crimée, son protégé, Douglas Haddow, un grimpeur novice de 19 ans, et Lord Francis Douglas, le fils du 8e marquis de Queensberry, un jeune homme de 18 ans tout récemment classé premier à l'examen de l'armée britannique, avec 500 points d'avance sur le plus proche de ses 118 concurrents, et alpiniste néophyte qui fréquentait les Alpes depuis 2 ans. Pour accompagner ce groupe hétéroclite aux aptitudes et niveaux si différents, Whymper avait engagé 3 guides. Le vieux Peter Taugwalder, considéré comme un vieillard alors qu'il n'avait que 45 ans. Le jeune Peter Taugwalder, 21 ans. Et Michel Kroos, un guide de Chamonix hautement qualifié. En vérité, Kroos leur aurait largement suffi, mais Whymper avait promis au Taugwalder de les embaucher, et l'alpiniste anglais tenait toujours parole, même au risque de surcharger le groupe et d'avoir 2 guides presque superflus. Et puis, sur l'arête italienne, j'ai compris que le diacre voulait nous faire prendre la mesure du courage et des efforts qu'avait dû déployer l'ami, rival et ancien partenaire de cordée de Whymper, Jean-Antoine Carrel. Les voies difficiles que nous suivions étaient les siennes. Nous plantions nos tentes, appelées des tentes Whymper et conçues par le célèbre alpiniste de l'âge d'or pour cette même montagne, dans les prés au-dessus des glaciers à basse altitude, sur l'un ou l'autre versant que nous rejoignions le soir juste avant le crépuscule. Après un dîner léger, nous conversions autour d'un petit feu, puis dormions profondément pendant quelques heures avant de repartir grimper. Nous avons escaladé l'arête de Furgen, mais éviter l'impressionnant surplomb proche du sommet. Ce n'était pas une défaite. Pendant une journée entière, nous avons exploré des approches de ce surplomb encore invaincu, puis décidé que nous n'avions ni l'équipement ni les capacités pour l'attaquer directement. Il serait finalement conquis 18 ans plus tard, en 1942, par Alfredo Perino, Louis Carrel, dit le Petit Carrel, en hommage à son illustre prédécesseur, et Giacomo Chiara. Cette prudence qui nous retenait de risquer notre vie, compte tenu du matériel et des techniques de 1924, dans cette tentative d'escalade du grand ressaut de Furgen, m'a alors rappelé ma première rencontre avec l'anglais Richard Davis Deacon, 37 ans, et le français Jean-Claude Clairoux, 25 ans, au pied de la face nord encore vierge de l'Eiger, la mortelle Eigerwand. Mais je raconterai cette histoire une autre fois. Sachez seulement que Richard Deacon, le diacre, comme l'appelaient en général ses amis et partenaires d'escalade, et Jean-Claude Clairoux, tout juste admis dans la compagnie des guides de Chamonix, l'un des cercles d'ascensionnistes les plus exclusifs du monde, avaient accepté de m'emmener avec eux dans leurs expéditions alpines au cours de cet hiver et de ce printemps. Jamais je n'aurais pu rêver de plus beaux cadeaux. J'avais apprécié Harvard, mais ces quelques mois d'apprentissage auprès du diacre et de Jean-Claude, que j'ai fini par surnommer JC, puisque le diminutif ne semblait pas le gêner, ont compté parmi les plus exigeants et exaltants de ma vie. Du moins, jusqu'au cauchemar de l'Everest. Mais j'anticipe beaucoup trop. Lors de nos deux derniers jours sur le Cervin, nous avons effectué une ascension partielle de la montagne par sa dangereuse face ouest, avant de descendre en rappel pour explorer des itinéraires et élaborer des stratégies d'approche de la très épineuse face nord, l'un des derniers et des plus difficiles problèmes non résolus des Alpes. Franz et Tony Schmid allaient la vaincre 7 ans plus tard, après y avoir bivouaqué une nuit. Ils ont fait le trajet depuis Munich à bicyclette, et une fois leur ascension surprise réussie, sont repartis chez eux par le même moyen. Nous trois, nous sommes contentés d'en faire une reconnaissance. Le dernier jour, nous avons réussi à découvrir des voies sur le nez de Smoot, d'aspect imprenable, en surplomb de la partie droite de la face nord. Puis nous sommes revenus sur nos pas pour traverser vers l'arête italienne, et quand le diacre nous a autorisé d'un hochement de tête à gravir les 30 derniers mètres, nous nous sommes enfin retrouvés sur l'étroit sommet en cette radieuse journée de la fin juin. Au cours de cette semaine sur le Cervin, nous avions grimpé par tous les temps. Averse, soudaine tempête de neige, pluie verglaçante et vent violent. Ce dernier jour, au sommet, le ciel est dégagé, le temps chaud et calme. Les vents sont si dociles que le diacre réussit à allumer sa pipe avec une seule allumette. La cime du Cervin est une arête étroite d'environ 100 mètres de long, reliant le sommet italien, plus bas et légèrement plus large, au sommet suisse, une pointe plus haute et plus fine. Au cours des 9 derniers mois, le diacre et Jean-Claude m'ont enseigné que toutes les bonnes montagnes nous offrent des alternatives. Et en effet, au sommet du Cervin, le choix est clair. Un faux pas à gauche et on meurt en Italie, un écart à droite et on meurt en Suisse. Le côté italien est une paroi abrupte de 300 mètres se terminant sur des rochers et des arêtes qui, en cas de chute, vous arrêteraient au milieu de la face. Le côté suisse donne en bas sur une pente raide enneigée et des blocs de roches, plusieurs dizaines de mètres sous le repère de mi-parcours, qui stopperaient peut-être la chute d'un corps, mais peut-être pas. Sur la ligne de crête elle-même, la neige est suffisamment épaisse pour que nos bottes ferrées laissent des empreintes visibles. L'arête sommitale du Cervin ne correspond pas exactement à ce que les journalistes exaltés se plaisent à qualifier d'arête en lame de couteau. Nos empreintes de pas le prouvent. Sur une lame de couteau, nous en aurions laissé des deux côtés, puisque le meilleur moyen de traverser ce genre de crête consiste à marcher en canard, une jambe de part et d'autre de l'arête. En cas de glissade, on en serait quitte pour des testicules endoloris sans risquer, Dieu et le destin nous en préservent, d'une chute de 1200 mètres. Sur une arête légèrement plus large qu'une lame de couteau, un peu comme une corniche de neige verticale, nous nous serions encordés et préparés à ce que Jean-Claude appelait une partie de bascule. En cas de chute d'un grimpeur, vu qu'on ne peut pas compter sur l'assurage, celui qui le précède ou le suit doit avoir le réflexe de sauter de l'autre côté de l'arête, réflexe seulement acquis à force d'exercice. On est alors deux à se balancer au-dessus d'un vide de 1200 mètres ou plus, avec l'espoir fou que A, la corde ne cassera pas, ce qui condamnerait les deux, et B, le poids de l'un contrebalancera celui de l'autre. Et ça marche. Nous nous sommes entraînés de nombreuses fois sur une arête enneigée du Mont Blanc. Mais là-bas, un échec ou une rupture de corde ne se soldait que par une glissade de 15 mètres jusqu'à un champ de neige plat, pas par une chute de 1200 mètres. Comme je mesurais 1m88 et pesais 99 kilos, la logique aurait voulu que, dans une partie de bascule avec ce pauvre Jean-Claude, 1m70 pour 61 kilos, il vole par-dessus la ligne de crête enneigée, tel un poisson accroché à l'hameçon, et nous entraîne tous deux dans une glissade incontrôlée. Mais Jean-Claude, transportant toujours un chargement plus lourd que nous autres, il était aussi le plus rapide et le plus habile dans le maniement du piolet à long manche, l'équilibre se faisait en général. La corde de chanvre sous tension s'enfonçant dans la neige jusqu'à trouver de la roche ou de la glace solide. Mais, comme je l'ai dit, cette longue arête au sommet du Cervin est un boulevard en comparaison des arêtes en lame de couteau, suffisamment large pour qu'on puisse marcher dessus, en file indienne, voire, si l'on est très courageux, extrêmement agile ou complètement idiot, les mains dans les poches et l'esprit occupé ailleurs. C'est précisément ce que fait le diacre, qui sort sa vieille pipe de sa veste et l'allume tout en arpentant les trois passages. Le diacre, taciturne au point de rester parfois silencieux plusieurs jours d'affilée, paraît d'humeur expansive en cette fin de matinée. Tirant sur sa pipe, il nous fait signe à Jean-Claude et moi de le suivre jusqu'à l'autre extrémité, d'où l'on peut voir l'arête italienne, la voie choisie lors des premières tentatives d'ascension de la montagne, même par Whymper, jusqu'à ce qu'il décide de passer par l'arête suisse en apparence plus difficile, mais en réalité plus simple en raison de l'inclinaison des immenses dalles. Carrel et son groupe étaient là-bas, dit-il en pointant le doigt vers une ligne à un tiers du chemin en partant de l'étroite arête de pierre. Tant d'années d'efforts, et Whymper qui finit par arriver au sommet 2 ou 3 heures avant son vieil ami et guide italien. Il parle bien sûr de la première ascension du Cervin, réalisée par Whymper et ses 6 compagnons le 14 juillet 1865. Il paraît que Whymper et Cross leur ont jeté des cailloux, dit Jean-Claude. Le diacre regarde notre ami français pour voir s'il plaisante, et tous deux sourient. Il montre ensuite le précipice à notre gauche. Whymper voulait absolument attirer l'attention de Carrel. Croz et lui ont crié et lancé des cailloux du côté de la face nord, très loin de l'arête où les Italiens grimpaient, bien sûr. Mais à cause de l'écho, Carrel et son équipe ont dû croire entendre des coups de canon. Notre regard s'attarde en contrebas, comme si nous voyions le guide italien et ses compagnons, les yeux levés vers le sommet, sous le choc de leur défaite. Carrel a reconnu le large pantalon blanc de son ancien client, dit le diacre. Il pensait être à moins d'1 heure du sommet. Il avait déjà franchi les pires obstacles de l'arête. Mais après avoir identifié Whymper là-haut, il a fait faire demi-tour à son groupe et ils sont redescendus. Le diacre soupire, tire sur sa pipe, et son regard embrasse les montagnes, les vallées, les prairies et les glaciers qui s'étendent en dessous de nous. Carrel a gravi le Cervin 2 ou 3 jours plus tard, toujours par l'arête italienne, dit-il à voix basse comme s'il se parlait à lui-même. Il a ouvert cette deuxième voie, même après l'évidente victoire des Anglais. Évidente victoire, d'accord ? Mais tellement tragique, dit Jean-Claude. Nous retournons à l'endroit où nous avons laissé nos sacs à dos, contre des rochers à l'extrémité nord de l'étroite arête. Jean-Claude et moi commençons à déballer notre déjeuner. C'est notre dernier jour sur le Cervin et peut-être la dernière fois avant longtemps que nous grimpons ensemble, voire la dernière fois tout court, même si j'espère ardemment que non. Rien ne me plairait davantage que de passer le reste de mon Wanderjahr européen à gravir les montagnes des Alpes avec mes nouveaux amis. Mais le diacre doit bientôt retourner à ses affaires en Angleterre et Jean-Claude remplir ses devoirs de guide et assister à la réunion annuelle de sa fraternité de la Cordée dans cette vallée de Chamonix pétrie de traditions. Chassant toute triste idée de fin ou d'adieu, j'oublie un instant mon casse-croûte pour admirer la vue encore une fois. Mes yeux sont plus affamés que mon estomac. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Les Alpes-Maritimes, à 200 kilomètres de là, sont clairement visibles. Le massif des Écrins, dont la pointe a été vaincue par Whymper et le guide Croz, se détache contre le ciel telle une grosse truie blanche. Me tournant légèrement pour regarder vers le nord, je vois les hautes cimes de l'Oberland vers la source du Rhône. À l'ouest, le Mont Blanc domine tous les autres, et les neiges de son sommet réfléchissent si fort la lumière que je dois plisser les yeux. En pivotant à peine vers l'est, je vois tout un alignement de pics. J'en ai gravi certains au cours des 9 derniers mois avec mes nouveaux amis, et j'en gravirai d'autres. Des cimes blanches qui s'étagent en dents de scie pour n'être plus au loin qu'un horizon bosselé enveloppé d'une brume lointaine. Le diacre et Jean-Claude ont attaqué leur sandwich. M'arrachant au spectacle et à ma rêverie, je commence à manger. Le rosbif froid est délicieux et le pain croustillant. Le réfort me fait monter les larmes aux yeux et le Mont Blanc devient une masse indistincte. Regardant vers le sud, j'admire le paysage dont Wimper a parlé dans son livre « Escalade dans les Alpes de 1860 à 1869 » devenu un classique. Je me souviens parfaitement de la description que j'ai lue pas plus tard qu'hier soir à la lueur de la bougie dans ma tente au-dessus du Breuil, de ces mots décrivant le panorama découvert par Wimper le 14 juillet 1865 depuis le sommet du Cervin et dont je me repais à mon tour en cette fin du mois de juin 1924. Je vois encore d'épaisses et tristes forêts, de fraîches et riantes prairies, des cascades furieuses, des lacs tranquilles, des terres fertiles et des solitudes sauvages, des plaines fécondées par le soleil et des plateaux glacés. Les formes les plus abruptes, les contours les plus gracieux, des rochers escarpés et à pic, des pentes doucement ondulées, des montagnes de pierre ou des montagnes de neige, les unes sombres, solennelles ou bien étincelantes de blancheur, ornées de hautes murailles, de tours, de clochetons, terminées en pyramides, en dômes, en cônes, en aiguilles, semblables aux flèches hardies des cathédrales gothiques. Toutes les combinaisons de lignes que l'univers peut offrir, tous les contrastes que l'imagination peut rêver. Eh oui, Edward Wimper avait l'âme romantique, comme tant d'alpinistes de l'âge d'or dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et son écriture fleurie paraît surannée, comparée au style dépouillé qui est la norme aujourd'hui. Mais je suis moi-même, je l'avoue, un incorrigible romantique. C'est dans ma nature. Et malgré Harvard, ma licence de lettres et mon envie d'écrire moi aussi de grands romans et des récits de voyage, dans le style dépouillé si cher à la modernité, cela va de soi, je me surprends à être de nouveau ému aux larmes par la lyrique description de Wimper. De sorte qu'en ce jour de juin 1924, ces mots écrits depuis plus de 50 ans résonnent dans mon cœur, et la vue qui les a inspirés au sentimental Edward Wimper résonne plus encore dans mon âme. Ce grand alpiniste avait 25 ans lorsqu'il a pour la première fois gravi le Cervin et contemplé cette vue. J'ai fêté mon 22e anniversaire il y a 2 mois, et voilà que je me l'offre à mon tour. Je me sens très proche de Wimper et de tous les alpinistes, qu'ils soient cyniques ou bien romantiques comme moi, qui ont regardé vers l'Italie, assis sur ce même trône rocheux. Au cours des mois passés avec le diacre et Jean-Claude dans les Alpes, chaque ascension a été suivie d'une séance de questions-réponses, comme une sorte de catéchisme dédié à une montagne particulière. Le ton n'en est jamais condescendant, et j'ai pris goût à cet exercice qui m'apprend tant de choses. J'étais déjà un bon grimpeur à mon arrivée en Europe, sous la supervision tranquille, parfois blagueuse mais jamais pédante du diacre et de Jean-Claude. Je suis en train de devenir un excellent grimpeur. Un grimpeur de classe internationale, membre d'une toute petite confrérie. Plus que ça, ce parrainage et ce catéchisme des sommets m'a appris à aimer la montagne que je viens de gravir. À l'aimer, même si elle s'est montrée perfide et traîtresse dans les moments intimes que j'ai passés avec elle. Roches friables, avalanches, traversées sans la moindre prise pour les doigts, chutes de pierres mortelles, bivouacs forcés sur des saillies trop étroites pour y poser un livre et où l'on doit pourtant se tenir dans le froid glacial, sous la grêle ou l'orage, par ces nuits où la pointe métallique du piolet étincelle de bleu à l'approche de la foudre, et les jours de chaleur sans une goutte d'eau à boire, et encore les nuits de bivouac où, en l'absence de pitons auxquels s'attacher, On en est réduit à tenir une bougie allumée sous le menton pour s'empêcher de s'endormir et de basculer dans le vide. À travers toutes ces épreuves, le diacre, et surtout Jean-Claude, m'apprenait à aimer la montagne, à l'aimer pour ce qu'elle était vraiment, à aimer même les instants les plus rudes aux prises avec elle. Le catéchisme du Cervin, conduit par Jean-Claude, est assez bref.
Il y a quelque chose à aimer en toute bonne montagne. Le Cervin est une bonne montagne. Avez-vous aimé ses faces?
Non. Les faces du Cervin, en particulier la face nord où nous avons passé la plus grande partie du temps, ne méritent pas d'être aimées. Ce sont des éboulis, des chutes de pierres et des avalanches constantes.
Mais vous avez aimé la roche dont elle est faite?
Non. La roche est instable, elle se délite. On ne peut pas s'y fier. Quand on y plante un piton à l'aide d'un marteau, jamais on n'entend le son de l'acier contre le fer, du fer contre le roc. Et une minute plus tard, on peut retirer le piton à deux doigts. Sur le Cervin, la roche est épouvantable. Les montagnards savent que toutes les montagnes sont en voie d'effondrement, leur verticalité étant sapée en permanence et inéluctablement par le vent, l'eau, la météo et la gravité. Mais plus que tout autre, le Cervin ressemble à une pile instable de gravats. Si j'ai aimé la roche ici, sûrement pas. À aucun moment.
Mais vous aimez ces arêtes?
Non. Les célèbres arêtes du Cervin, l'italienne et la suisse, celles de Furgen et celles de Zmout, sont soit trop dangereuses, en proie aux chutes de pierres ou aux avalanches, soit trop domestiquées, criblées de câbles et de cordes fixes pour les alpinistes en jupons et les Anglais de 70 ans. Aimer les arêtes de cette montagne? Impossible. Du moins plus depuis l'époque d'Edward Whymper où tout était nouveau.
Mais vous aimez cette montagne, vous le savez bien. Qu'aimez-vous chez elle?
Oui, le Cervin est une montagne qui offre à l'alpiniste de nombreux problèmes à résoudre. Mais, contrairement à la face nord encore vierge de Laeger ou à certains autres pics que j'ai vus ou dont j'ai entendu parler, elle propose aussi une solution claire et nette à chaque problème. Le Cervin est un amas d'éboulis, mais ses faces et ses arêtes sont belles à contempler de loin. Cette montagne ressemble à une comédienne vieillissante qui, sous son maquillage tristement apparent, garde encore les pommettes saillantes de sa jeunesse et laisse entrevoir par instants la beauté presque parfaite qu'elle était autrefois. La forme même du pic, qui se dresse seul sans être relié à ses voisins, est peut-être la plus mémorable de toutes les Alpes. Demandez à un enfant qui n'a jamais vu de montagne d'en dessiner une, et c'est le Cervin qui apparaîtra sous son crayon. Telle est sa force symbolique. Et avec le haut de sa face nord légèrement incliné vers l'extérieur, comme une vague qui se brise, la montagne paraît toujours en mouvement. Cette abrupte face en saillie crée son propre microclimat, produit ses propres masses nuageuses. Telle est sa puissance.
Et vous aimez les fantômes qui la hantent?
Oui. On ne peut pas éviter de penser au passé. La trahison patriotique de Jean-Antoine Carrel, ancien guide loyal de Whymper, qui le 14 juillet 1865 choisit d'emmener Felice Giordano par l'arête du Lion, pour la gloire d'une première toute italienne. La course désespérée d'un Whymper de 25 ans vers Zermatt, pour tenter l'arête opposée, avec un groupe composé à la hâte du jeune Lord Francis Douglas, du révérend Charles Hudson, de Douglas Addo, âgé de 19 ans, de Michel Croze, le guide de Chamonix, et des deux guides locaux, le jeune Peter et le vieux Peter Taugwalder. Ce sont les voix des quatre hommes morts ce jour-là qui résonnent le plus fort. Tout alpiniste doit apprendre à les entendre, à aimer et respecter le fait d'escalader les mêmes rochers qu'ils ont foulés naguère, de dormir sur les mêmes dalles qu'eux, de triompher sur le même étroit sommet où les sept de Whymper ont crié victoire, puis redescendre prudemment par les périlleuses voies où les quatre hommes ont trouvé la mort en chutant de plusieurs centaines de mètres.
Et, mon ami, vous aimez la vue depuis le sommet?
Oui. C'est vrai que j'aime cette vue. Elle justifie à elle seule les courbatures et les mains ensanglantées. Mieux même, elle les fait oublier. La vue vaut tout. Pendant que je mange mon sandwich en contemplant le spectacle, Jean-Claude, sa leçon terminée,
déplie le journal qui enveloppait l'étamine couvrant nos sandwichs. Mallory et Irvine tués dans une tentative de conquête de l'Everest, lit-il à voix haute avec son doux accent français. Je cesse de mâcher. Le diacre, qui était en train de taper sa pipe contre sa botte ferrée pour vider le fourneau, se fige lui aussi, la botte sur le genou et la pipe vide contre la botte, le regard braqué sur Jean-Claude. Notre ami poursuit. Londres, 20 juin 1924. C'est avec un profond regret que le comité de l'Everest a reçu le câble suivant. Il s'interrompt et me passe le journal froissé. Jake, c'est votre langue. À vous de lire. Surpris par la réticence de Jean-Claude, jusqu'à preuve du contraire, il lit l'anglais aussi couramment qu'il le parle, je prends le journal, le défroisse sur mon genou et commence à lire tout haut. Londres, 20 juin 1924. C'est avec un profond regret que le comité de l'Everest a reçu le câble suivant, envoyé par le colonel Norton du Dzong de Fari, le 19 juin à 16h50. Mallory et Irvine tués dans cette dernière tentative. Reste du groupe revenu sain et sauf au camp de base le jour même. Deux alpinistes non membres de l'expédition morts dans une avalanche le dernier jour, après le départ des autres. Le comité a télégraphié au colonel Norton pour présenter ses condoléances aux membres de l'expédition. La disparition de leurs deux vaillants camarades, certainement due à des conditions météorologiques et d'enneigement des plus défavorables, qui depuis leur arrivée sur les lieux ont entravé l'escalade cette année, je poursuis ma lecture de l'article, moitié compte-rendu affligé, moitié hagiographie. La mort tragique de ces deux hommes, George Leith Mallory, le seul de ce groupe ayant participé aux deux précédentes tentatives d'ascension de l'Everest, et A.C. Irvine, l'une de ses recrues, conclut tristement cette histoire de conquête débutée il y a 3 ans. Il y a quelques jours seulement, nous publions le récit fait par Mallory du deuxième revers subi par la présente expédition. Un revers imputable au vent et à la neige, qui avait chassé les hommes de leur camp supérieur, déçus mais très loin d'être vaincus d'après le message envoyé par Mallory au Times. Suivaient encore plusieurs paragraphes résumant le refus de Mallory d'abandonner malgré le froid, les vents violents, les avalanches, et le début imminent de la mousson qui mettrait un terme à la saison d'escalade pour l'année. Je m'interromps et regarde mes deux amis, cherchant à savoir si je dois arrêter ma lecture et passer le journal à la ronde, mais Jean-Claude et le diacre se contentent de poser sur moi un regard fixe. Ils attendent la suite. Une légère brise s'est levée, m'obligeant à serrer plus fort le journal alors que j'aborde la longue deuxième colonne. Mallory se trouvait dans l'état d'esprit de celui qui s'apprête à se lancer dans une lutte désespérée. L'action, disait-il, est seulement suspendue avant l'effort plus intense nécessaire à l'assaut ultime. L'issue sera bientôt décidée. La troisième fois où nous monterons au glacier du Rongbuk Est sera la dernière, pour le meilleur ou pour le pire. Il avait évalué les risques et était prêt à les affronter. Nous n'espérons de l'Everest aucune pitié, écrivait-il plus tard dans sa dépêche. Et l'Everest, hélas, l'a pris au mot. Je marque une pause. Le diacre et Jean-Claude n'ont pas bougé. Ils attendent. Très loin derrière l'épaule du diacre, un grand corbeau plane, immobile, sur la brise légère, suspendu dans l'air au-dessus de 1000 mètres de vide. Me gardant de toute critique du style de cette prose, je continue ma lecture. L'article rappelle le passé de brillant alpiniste de Mallory et sa détermination absolue à gravir l'Everest. Hélas, pensais-je sans le dire, ainsi que les exploits du général C.G. Bruce, du major E.F. Norton et d'autres qui ont battu le record d'altitude de 6700 mètres établi par le duc des Abruzzes sur une montagne nommée le K2. D'après le compte-rendu, George Leith Mallory, 37 ans, un vétéran de l'Everest, et le jeune Andrew Irvine, 22 ans seulement, exactement mon âge, ont quitté leur campement en haute altitude le 8 juin au matin, sans doute munis de bouteilles d'oxygène. Quelques heures plus tard, Noël Odell, un autre membre de leur expédition, a aperçu les deux héros se dirigeant résolument vers le sommet. Après quoi, les nuages ont tout recouvert, la tempête de neige a éclaté, et on n'a plus revu Mallory et Irvine.
Le soir de leur disparition, raconte le Times, Odell a parcouru tout le trajet jusqu'au précaire Kansas et passé la nuit à crier dans les vents rugissants au cas où Mallory et Ervin auraient été en train de redescendre dans l'obscurité. Mallory avait laissé son feu de détresse et sa lanterne au Kansas. Même s'il avait été en vie, il n'aurait eu aucun moyen de se signaler aux autres en bas. Au bout de 50 heures, selon le récit du Times, même l'optimiste Noël Odell a abandonné tout espoir et disposé deux sacs de couchage en forme de T à l'intention des observateurs munis de télescopes au camp inférieur. Le signal préétabli signifiant qu'il était inutile de poursuivre les recherches, les deux alpinistes étaient perdus à jamais. Enfin, je baisse la page du journal. La brise naissante l'agite. Le corbeau a disparu du ciel bleu qui s'obscurcit en ce début d'après-midi. Je secoue la tête, percevant la forte émotion de mes camarades, mais sans en comprendre la profondeur ni la complexité. Et ça continue dans la même veine, conclus-je d'une voix rauque. Le diacre finit par sortir de son immobilité. Il range sa pipe froide dans la poche de poitrine de sa veste de tweed et déclare « Ils ont dit qu'il y en avait deux autres. » Quoi donc ? Dans le premier paragraphe, il est dit qu'il y avait deux autres morts. Qui ? Comment ? Oh ! Je reprends le journal et fais courir mon doigt le long de la dernière colonne. Il n'est question que de Mallory et d'Irvin, d'Irvin et de Mallory et encore de Mallory. Mais là, tout à la fin, je lis l'explorateur allemand Bruno Siegel, alors en mission de reconnaissance en vue d'une tentative allemande d'ascension de l'Everest, rapporte avoir vu Lord Percival Bromley, 32 ans, frère du 5e marquis de l'Exeter, ainsi qu'un alpiniste allemand ou autrichien qu'il a identifié comme étant Kurt Meyer, être emporté par une avalanche entre les camps 5 et 6. S'il n'était pas un membre officiel de l'expédition Mallory menée par le colonel Norton, le jeune Bromley, Lord Percival, l'avait suivi depuis Darjeeling jusqu'au camp de base au pied de l'Everest. Bien que la mousson ait commencé et que l'expédition du colonel Norton ait déjà quitté la montagne, on suppose que Lord Percival et Meyer menaient d'ultimes recherches pour localiser Mallory et Ervin. Les corps de Lord Percival et de l'alpiniste allemand ou autrichien n'ont pas été retrouvés. Une fois encore, je pose le journal. Lord Bromley, un père de votre royaume, trouve la mort sur l'Everest et les journaux en parlent à peine, marmonne Jean-Claude. Il n'y en a que pour Mallory et Ervin. En Angleterre, on dit Lord Percival ou Lord Percy, le corrige gentiment le diacre. Lord Bromley est son frère aîné, le marquis. Et même s'il avait été le suivant dans l'ordre de succession, Percy Bromley aurait fait un bien piètre père. Le vrai monarque de cette expédition, c'était George Mallory, malgré ses origines modestes. Le diacre se lève, enfonce les mains dans les poches de son pantalon et s'éloigne sur l'étroite arête, tête baissée. Il me fait penser à un professeur distrait, déambulant sur un campus en réfléchissant à quelques problèmes ésotériques. Une fois qu'il est hors de portée de voix, je demande tout bas à Jean-Claude, « Il connaissait Mallory ou Ervin ?» Jean-Claude se penche vers moi et, bien que le diacre soit à plusieurs mètres de nous, chuchote lui aussi. « Ervin, je ne sais pas, mais Mallory, oui. Le diacre le connaissait depuis des années. Avant-guerre, ils ont fréquenté le même petit collège à Cambridge. Et pendant la guerre, leurs chemins se sont souvent croisés sur les champs de bataille. Mallory a invité le diacre à participer aux expéditions de 1921 et 1922 dans l'Everest. La première pour reconnaître le terrain. La seconde pour tenter l'ascension, et il y est allé. Mais il n'y a eu aucune invitation de la part de Mallory ou de l'Alpine Club pour l'expédition de cette année. Grand Dieu ! Avant aujourd'hui, je croyais commencer à connaître mes deux nouveaux amis et partenaires de grimpe. Or, il semble que je ne sais, et ne savais, pratiquement rien. Ça aurait pu être Mallory et le diacre, à la place de Sandy et Ervin, les disparus de l'Everest, dis-je dans un murmure. Jean-Claude mord ses lèvres gercées et vérifie que le diacre est toujours là-bas, sur le côté italien du sommet. Notre ami paraît regarder dans le vide. « Non, non, » répond-il à voix basse. Pendant les deux premières expéditions, Mallory et le diacre ont eu plusieurs... Comment dites-vous en anglais ? Désencordements ?
L'espace d'une seconde, j'imagine la corde qui se rompt entre les deux alpinistes,
puis je comprends.
Des désaccords?
Oui, c'est ça, de graves désaccords, j'en ai peur. Je suis sûr que Mallory n'a plus parlé au diacre depuis leur retour de l'expédition de 1922.
Des désaccords à propos de quoi?
Le vent qui s'est de nouveau levé nous souffle du grésil au visage.
La première expédition, officiellement, c'était une expédition de reconnaissance. Mais l'objectif réel était de trouver le chemin le plus rapide vers la montagne, à travers tous les glaciers et les cascades de glace à sa base, puis de commencer l'ascension le plus tôt possible. Le diacre et Mallory estimaient tous deux avoir des chances de vaincre le sommet dès cette première tentative en 1921.
Ambitieux, dis-je dans un souffle.
Le diacre est toujours perché à l'extrémité italienne de l'arête sommitale. Le vent soufflant encore plus fort de cette direction, je doute qu'il nous entendrait même si nous crions. Pourtant, Jean-Claude et moi continuons notre conversation à voix basse et précipitée.
Donc Mallory affirmait que le meilleur moyen de rejoindre le col Nord, la voie la plus évidente par la face nord de l'Everest, était de passer par l'Est, en remontant la vallée de Karta. En réalité, c'était un cul-de-sac, mais Mallory persistait et les faisait explorer des chemins qui se terminaient toujours en impasse. Il a même envoyé Guy Bullock si haut sur le Rongbuk Ouest qu'ils ont failli franchir la frontière avec le Népal. De là, examinant les approches de l'Everest par le sud, ils ont conclu que les glaciers et les cascades de glace à l'approche de la face et des arêtes sud étaient totalement impraticables. La solution devait donc forcément se trouver sur cette face nord.
Je me demande...
J'ai dit ça dans un murmure, plus pour moi-même que pour lui.
Bref, ils ont perdu des mois,
poursuit Jean-Claude.
Du moins du point de vue du diacre, des mois passés à explorer des voies vers l'est et vers l'ouest, à tout mesurer, tout photographier, sans jamais trouver d'approche praticable vers le col nord.
J'ai vu certaines des photos,
dis-je, jetant un coup d'œil vers l'autre extrémité de l'arête. Le diacre n'a, semble-t-il, pas bougé un muscle.
Elles sont splendides.
Oui.
Mais pour la première série qu'il a voulu prendre, en escaladant un pic difficile afin d'avoir un point de vue parfait, Mallory a mis les plaques à l'envers dans l'appareil photo. Évidemment, il n'y avait rien sur le tirage. Ce sont Bullock et les autres qui se sont chargés du vrai travail photographique. Quel rapport avec les désaccords entre Mallory et le diacre?
Devenir presque ennemi après tant d'années de collaboration et, je suppose, de respect mutuel.
Jean-Claude soupire.
Ils ont établi leur premier camp de base à l'entrée d'une petite vallée où coulait une rivière. Ils ont dû passer devant cette vallée des centaines de fois, mais sans jamais l'explorer. Dès le début, le diacre a proposé de chercher par là une approche vers le col nord. Mais Mallory a rejeté l'idée, affirmant qu'elle se prolongeait uniquement jusqu'au glacier du Rongbuk Est, puis s'arrêtait. Il distinguait l'entrée d'une vallée secondaire, aisée à traverser, avec son sol de gravier et ses pinacles de vieille neige comme seul vestige de l'ancien glacier. Et le diacre a suggéré qu'elle s'incurvait peut-être de nouveau vers l'ouest, en quoi il avait raison, et pourrait leur offrir un chemin facile et sûr vers le col nord et le début de leur ascension. Mallory a encore dit non, et pendant des semaines, ils ont continué leur reconnaissance inutile vers l'est et vers l'ouest. En plus, Mallory et l'Alpine Club avaient décrété que la saison de la mousson d'été était la meilleure pour tenter d'escalader l'Everest, mais dès le mois de juin, M. Mallory a dû admettre qu'avec ses chutes de neige interminables, c'était une très, très mauvaise période. Une mauvaise période pour reconnaître la montagne, encore pire pour tenter l'ascension, vu que les tempêtes étaient beaucoup plus, beaucoup plus féroces en altitude. C'était donc là leur désaccord de 1922?
Jean-Claude sourit presque tristement.
La gorgée d'eau, comment dites-vous déjà? L'eau qui fait déborder le vase?
La goutte d'eau.
Ça a été l'insistance du diacre qui voulait absolument qu'ils escaladent le lac Pala pour voir le terrain d'en haut. Mallory considérait que ce serait une épreuve inutile et il a refusé la requête du diacre pendant des semaines.
C'est quoi le lac Pala?
Ma connaissance de la géographie de l'Everest était alors quasi inexistante. Tout ce que je savais, c'est que la plus haute montagne du monde partageait une frontière entre le Népal et le Tibet et qu'on ne pouvait l'atteindre que par ce dernier pays, compte tenu de la situation politique de la période. Si ascension il devait y avoir, elle se ferait donc par la face nord, ou, plus précisément, par l'arête nord-est, au-dessus de l'arête nord et de la face nord, si l'on en croit toutes les photos prises pendant l'expédition.
Le lac Pala est un col d'altitude à l'ouest qui sépare le glacier de Karta du glacier du Rongbuk Est,
m'explique J.C.
Ils y sont montés sous un blizzard aveuglant en tapogeant, c'est bien le mot, Jake?
Pataugeant. en pataugeant dans la neige de plus en plus épaisse, sans rien voir du tout, même lorsqu'ils ont atteint le terrain plat qu'ils ont supposé être le sommet. Le montage de leur tente a été un cauchemar, et Mallory était furieux de cette perte de temps. Mais au matin, le ciel s'est complètement dégagé, et de leur campement couvert de neige sur le lac Pala, ils ont découvert une voie parfaite vers le col nord. Elle partait de la vallée secondaire que le diacre avait tant insisté pour explorer, montait jusqu'à l'autre côté du cirque à travers la neige et la glace, puis, sans difficulté visible, jusqu'au col nord lui-même. À partir de là, il fallait grimper l'arête nord tout du long jusqu'à la haute arête nord-est. Mais les neiges de mousson tombaient dru, les vents étaient épouvantables, et bien qu'ils aient reconnu la voie jusqu'à un mur de glace de 300 mètres sous le col nord, il était trop tard dans la saison pour tenter d'atteindre le sommet. Ils ont quitté la montagne le 24 septembre, sans même avoir posé le pied sur l'Everest lui-même.
Après avoir fumé sa pipe, le diacre est maintenant en train de la vider de ses cendres. Il ne devrait plus tarder à nous rejoindre.
Voilà donc la raison de leur brouille, dis-je dans un murmure. Et c'est pour ça que le diacre n'a pas accompagné Mallory cette année. Une des raisons, dit Jean-Claude. Il chuchote d'un ton de plus en plus rapide. Il y a aussi eu un incident à la fin de la deuxième expédition, la vraie goutte d'eau. Bref, le groupe était rentré en Angleterre depuis quelques semaines à peine, après l'expédition de 1922, quand les préparatifs ont commencé pour la suivante. Le diacre a été invité à participer, mais de mauvaise grâce. Un extrait d'une lettre de Mallory à sa femme a circulé, je ne sais comment, dans les cercles d'alpinistes en 1923. Je m'en souviens dans les grandes lignes. J'ai beau connaître M. Deacon depuis des années, nous étions amis à Cambridge et sommes allés grimper ensemble au pays de Galles après nos études, je ne l'apprécie pas beaucoup. Il aime trop jouer aux professeurs, aux grands seigneurs, aux poètes. Ses préjugés conservateurs transparaissent par moments, mais aussi son mépris, frisant parfois la haine pour les gens qui ne sont pas de son monde. Notre ami Richard Davis Deacon adore se faire appeler par le surnom que lui ont donné nos camarades, une cinquantaine au total, lors de sa première année à Magdalen College. Le diacre. Je suis sûr que ça flatte son égo surdimensionné. Quoi qu'il en soit, Ruth, après la dernière expédition, j'ai eu le sentiment que jamais plus je ne serai à l'aise avec lui. Il est cultivé, il a des idées très arrêtées sur tout et ne supporte pas que d'autres sachent des choses qu'il ignore. Et quand par hasard il devine juste, comme à propos de la piste découverte depuis le sommet du col de Lac Pala, il tire orgueil de sa chance comme si c'était lui le leader et non pas moi.
Vous avez une sacrée mémoire, mon ami.
Jean-Claude paraît surpris.
Mais bien sûr, en Amérique, les élèves ne doivent-ils pas apprendre par cœur des centaines de pages de vers et d'autres belles œuvres littéraires sous peine d'être sévèrement punis? En France, l'apprentissage par cœur est le cœur de l'apprentissage.
Le diacre regarde vers nous, impassible, apparemment toujours plongé dans ses réflexions. Mais je me doute qu'il va bientôt nous rejoindre.
Vite, dis-je à Jean-Claude. Dites-moi ce qui, lors de l'expédition de 1922, a été la vraie goutte d'eau qui a fait déborder le vase de leur amitié.
J'avoue que ce n'est pas la plus belle phrase que j'ai jamais construite, mais Jean-Claude me regarde comme si je m'étais soudain mis à bafouiller en araméen.
En 22, ils pensaient tous avoir une bonne chance d'atteindre le sommet, dit-il, alors que le diacre commence à revenir vers nous sans se presser. Ils ont gravi l'imposant mur de glace jusqu'au col nord, ont traversé le col pour rejoindre l'arête nord, ont escaladé cette crête jusqu'à l'arête nord-est, et de là, ont pris le chemin du sommet. Mais des vents terribles les ont contraints à s'écarter de l'arête, et ils se sont retrouvés sur la face nord elle-même, où leur progression était lente et périlleuse. Ils ont dû rebrousser chemin jusqu'au camp de base. Le 7 juin, Mallory a pourtant insisté pour qu'ils retournent au col nord, imaginant encore, après des jours de neige et de mousson, qu'ils pourraient tout de même vaincre le sommet. Le diacre a tenté de le dissuader d'emmener une fois de plus les porteurs et les alpinistes sur le col nord. Il a fait remarquer que le temps avait changé, et qu'il fallait faire une croix sur le sommet pour cette année. Le diacre en connaissait bien plus sur la neige et la glace que Mallory, qui avait passé peu de temps sur les glaciers et dans les Alpes. Or, d'après lui, les conditions étaient très propices aux avalanches. Pas plus tard que la veille, le retour d'une reconnaissance au col nord, et alors qu'ils redescendaient vers l'échelle de corde qu'ils avaient laissée sur le mur de glace, certains des alpinistes avaient trouvé une zone de 50 mètres de large où un glissement avait effacé toutes les empreintes qu'ils avaient laissées 2 heures plus tôt. Le diacre a refusé d'y aller.
Ce même diacre est maintenant à 15 mètres de nous, et sans le mugissement du vent qui noie certainement nos paroles, nous devrions interrompre cette conversation. Jean-Claude se dépêche de terminer son récit.
Mallory a traité le diacre de lâche. Le matin du 7 juin, il a conduit un groupe de 17 hommes en haut du col nord. Tous les Sherpas étaient encordés.
L'avalanche les a frappés à environ 200 mètres du col, précisément sur le genre de pente contre lequel le diacre les avait mis en garde. 9 des porteurs ont été emportés. Il s'en est fallu de quelques mètres seulement pour que Mallory soit lui aussi balayé par la vague. 2 porteurs ont pu être dégagés, mais les 7 autres étaient morts. Ils ont été enterrés dans la crevasse où l'avalanche les avait presque précipités. Comme le diacre avait tenté de l'expliquer, c'était de la folie d'essayer de marcher sur les plaques de neige instables de ces pentes dans des conditions pareilles.
Mon Dieu,
comme vous dites, les 2 vieux amis ne se sont plus adressés la parole depuis ce jour de juin il y a 2 ans, et le diacre n'a pas été convié à l'expédition de cette année.
Je suis sans voix, sonné à l'idée que sans ce désencordement entre Mallory et lui, le diacre aurait pu participer à cette grande aventure, peut-être l'aventure du siècle. Certainement la tragédie héroïque du siècle, si l'on en croit les journaux. Je songe alors à l'immortalité que les Britanniques ne paraissent gagner qu'après une mort violente. Celle de George Leif Mallory est en train d'être forgée par le London Times, le New York Times et des milliers d'autres journaux. Nous avons raté tout ça ces 4 derniers jours, occupés comme nous l'étions à escalader, descendre, dormir et recommencer à escalader. Comment est-ce que... Mais je ne termine pas ma phrase. Le diacre nous a presque rejoints. Le vent agite sa veste de tweed et sa cravate. J'entends le crissement de ses bottes ferrées, sans doute presque identiques à celles portées par Mallory et à Irvine la semaine passée, qui laissent des empreintes fraîches dans la fine couche de neige sur l'arête sommitale du Cervin. Les mains toujours dans les poches de son pantalon de lainage, sa pipe froide rangée dans sa poche de poitrine, le diacre adresse à Jean-Claude un regard appuyé et lui demande « Mon ami, si vous aviez la chance de tenter l'ascension de l'Everest, la saisiriez-vous ? » Je m'attends à ce que Jean-Claude fasse une plaisanterie, ce serait bien dans son caractère malgré la triste nouvelle dans le journal. Mais au lieu de ça, il lève la tête vers notre leader et l'observe pendant un long moment en silence. Les yeux gris clairs du diacre, à la limpidité troublante, rompent le contact et paraissent se concentrer si fort sur un point dans le lointain que je ne peux m'empêcher de regarder derrière moi pour voir si le corbeau est revenu. « Oui, » finit par répondre Jean-Claude. L'Everest est immense et très éloigné de la vallée de Chamonix où mes devoirs de guide m'appellent et mes clients m'attendent. C'est une montagne plus britannique que toutes celles qui ont été conquises. Et je crois qu'elle continuera de tuer, cher Richard Deacon. Mais oui, mon ami, si jamais j'avais l'occasion d'escalader la bête, j'irais. Oui, absolument.
J'attends que le diacre me pose la même question, sans trop savoir quelle sera ma réponse. Mais rien ne vient. Le diacre hausse la voix pour être entendu par-dessus le vent. Redescendons par la face, puis prenons l'arête suisse vers Zermatt. C'est une petite surprise. Nos meilleures tentes et sacs de couchage, ainsi que la plus grande partie de nos provisions, se trouvent sur le versant italien, sur les hautes pentes au-dessus du Breuil. Oh, bon, voilà qui exigera un long aller-retour supplémentaire par le col Théodule. Une tâche qui m'incombera sans doute en tant que plus jeune membre du trio. J'espère seulement pouvoir trouver une mule à louer à Zermatt. Nous commençons à descendre l'à-pic de l'arête pour rejoindre le toit sans soleil et presque vertical de la montagne, le passage délicat, comme l'a qualifié Edward Whymper lors de leur ascension, ce qui s'est vérifié tragiquement à la descente. Et le diacre nous surprend, Jean-Claude et moi, je le vois à l'infime hésitation de ce dernier, en disant « Et si nous nous encordions pour ce passage ?» Nous avons effectué la plus grande partie de l'escalade sans être encordés. Si l'un de nous chute, eh bien, il chute. Sur la plupart des arêtes et des grandes dalles d'ici, l'assurage n'est pas nécessaire, et les dalles inclinées de la face nord sur lesquelles nous allons nous engager sont trop traîtresses pour offrir des points d'ancrage. Il n'y a pratiquement pas de saillie ou de projection auxquelles le dernier de cordée peut arrimer une boucle de sécurité, comme le faisaient couramment les alpinistes en 1924. Après avoir dénoué les différentes cordes que je porte à l'épaule, je déroule la plus courte. Nous nous attachons tous à la taille, ne laissant qu'environ 6 mètres de distance entre chacun de nous. L'ordre de la cordée ne se discute pas. Jean-Claude est le premier, c'est le meilleur sur la neige et la glace, mais il est tout aussi brillant sur les dalles à pic que nous allons rencontrer dans une minute. Je suis deuxième, moi qui pallie mon manque d'expérience par la force de mes bras. Et le diacre ferme la marche. Le diacre sert d'ancre de veille. Le diacre, troisième homme de la cordée, chargé de nous assurer, Jean-Claude et moi, si nous chutons. Un assurage sur cette roche friable qui dépasserait les capacités de presque tout homme sur terre et irait sûrement au-delà du point de rupture de notre fine corde de chanvre. Mais la fraternité de la cordée donne un puissant sentiment de sécurité, même quand la corde est fine au point de n'être plus que symbolique. Tout comme le fait de savoir que Richard Davis Deacon est là en dernier recours. Nous rejoignons l'extrémité suisse du sommet et commençons la descente. Quand je ne suis pas occupé à regarder où je place mes pieds sur les dalles mouillées et inclinées, je remarque que des vieilles cordes fixes et un câble métallique pendent un peu plus loin sur la paroi. Certaines de ces cordes ont été accrochées par de généreux guides cet été. La plupart, présentes depuis des années, tombent en poussière, la météo hivernale et le soleil de haute altitude accélérant le processus physique et chimique de leur inéluctable désintégration. Les clients, les touristes qui s'aventurent sur ces pics, ignorant tout de la roche, de la glace, de la corde et du ciel, s'arriment à ces cordes fixes et les utilisent parfois pour faire un rapide rappel leur permettant de descendre ce passage délicat, presque vertical et dangereusement exposé. Mais s'il est possible qu'une corde résiste, une autre peut tout autant se rompre et envoyer l'alpiniste s'écraser sur les rochers ou dans les crevasses du glacier des centaines de mètres plus bas. Il est presque impossible de voir à l'œil nu quelles cordes de chanvre sont neuves et fiables et lesquelles sont vieilles et promettent une mort certaine. C'est à cela que servent les guides. Nous évitons ces cordes, et Jean-Claude nous oriente plus près du bord de la face, là où les chutes de pierres et les petites avalanches sont plus fréquentes, même en juin. Néanmoins, ce faible risque d'éboulis ou d'avalanche, pendant les quelques minutes que nous passons sur cette paroi, vaut bien l'avantage d'avoir de meilleures prises de pied. Mais pourquoi avoir choisi cette voie? Pourquoi refaire le trajet fatal de Lord Francis Douglas et des autres membres de l'expédition Edward Whymper le 14 juillet 1865? Si tout le monde sait, même les non-spécialistes, qu'il y a plus d'accidents graves à la descente qu'à la montée, on ignore souvent qu'un alpiniste n'a pas la même relation à la montagne dans les deux cas, surtout quand il s'agit de roches. Pendant l'ascension, le grimpeur se trouve face à la paroi. Son corps se colle intimement à elle. Sa joue la touche. Ses doigts la palpent pour trouver une saillie ou une prise. Son corps entier explore chaque fissure, chaque cale, chaque dévers et chaque dalle, comme s'il faisait l'amour à la montagne. Durant la descente, l'alpiniste se tient le plus souvent dos à la paroi, de manière à voir plus facilement les minuscules saillies et prises de pied à quelques centimètres ou mètres à côté de lui. Le visage et l'attention tournés vers la pente, il fait face à l'immensité du ciel et au vide, sans plus sentir la solidité rassurante de la masse de neige ou de roche. De sorte que descendre une montagne est presque toujours plus effrayant pour le novice et plus exigeant en termes de concentration pour le grimpeur confirmé. Les descentes sont responsables de plus de morts que les ascensions. Pourtant, alors que je fais très attention à l'endroit où je mets les mains et les pieds en suivant JC, et alors que je me demande pourquoi le diacre a proposé cette voie où la moitié du groupe de Whymper a péri, mon esprit ne cesse de retourner à la question suivante. Pourquoi le diacre ne m'a-t-il pas demandé si j'accepterais de gravir l'Everest? Bien sûr, ça aurait été une question idiote et inutile. Je n'ai pas les moyens de participer à une expédition de l'Alpine Club dans l'Himalaya. C'est un club sportif réservé aux hommes fortunés, et j'ai déjà dépensé la plus grande partie du petit héritage reçu à ma majorité pour financer mon long séjour en Europe. Par ailleurs, il s'agit du British Alpine Club. Les Américains ne sont pas conviés. Les alpinistes anglais et leur société d'anciens étudiants d'Oxford et de Cambridge considèrent l'Everest, nommé en l'honneur d'un cartographe britannique par un géomètre britannique, comme leur chasse gardée. Jamais ils n'inviteraient un Américain aussi bon montagnard fut-il. Plus simplement, je n'ai pas l'expérience exigée des héros qui s'attaquent à l'Everest. J'ai fait beaucoup d'escalade pendant mes années à Harvard. Pour être honnête, j'ai plus escaladé qu'étudié, et j'ai même participé à trois petites expéditions estivales en Alaska. Mais même en y ajoutant les mois passés ici avec Jean-Claude et le diacre, je n'ai pas une maîtrise technique suffisante pour m'attaquer à la plus haute montagne encore vierge du monde, et peut-être la plus impitoyable. Tout de même, le grand George Leif Mallory vient de mourir dans l'Everest, et il n'est pas impossible que ce soit son jeune partenaire, Andrew Sandy Irvine, certes en grande forme physique, mais relativement novice en matière d'escalade, qui est dévissé et l'est entraîné avec lui dans la mort. Alors que nous descendons encore de quelques mètres, en donnant à la corde le mou nécessaire, je dois finalement reconnaître que je n'aurais sans doute pas le cran de tenter l'Everest. Quand bien même l'Alpine Club déciderait soudain d'inviter un Yankee inexpérimenté, inquiet et sans le sou, à participer à la prochaine expédition. Et je sais qu'il y aura une prochaine expédition. Une fois que les Britanniques se lancent dans un défi héroïque, ils ne lâchent jamais le morceau, même quand leurs grands hommes, Robert Falcon Scott, George Mallory, y laissent leur peau. Un peuple obstiné, ces Anglais. Et soudain, Jean-Claude et moi nous retrouvons à l'endroit précis où quatre des membres du groupe Whymper ont connu une mort terrible. Je dois ici interrompre mon récit pour préciser que j'ai conscience de la bizarrerie qu'il y a à décrire un accident survenu en juillet 1865, soit 60 ans avant l'aventure que je m'apprête à vous raconter. Mais, comme vous le verrez, l'un au moins des détails en apparence secondaire de la tragédie du groupe Whymper lors de la première ascension réussie du Cervin a rendu possible l'expédition d'Icon Clérou Perry dans l'Himalaya en 1925. Une expédition très officieuse et presque complètement ignorée. Les sept membres du groupe Whymper s'étaient encordés tous ensemble pour gravir la montagne, mais ils commencèrent la descente en deux cordées. Peut-être à cause du vertige et de l'épuisement. La première cordée était constituée de Cross, le meilleur alpiniste du lot, suivi de Addo, l'ami de Douglas et véritable néophyte, de Hudson, un grimpeur assez expérimenté, et enfin du jeune Lord Francis Douglas, un amateur doué. Les trois autres, qui se tenaient toujours sur l'extrémité suisse du sommet quand leurs camarades entamèrent la descente, s'encordèrent à leur tour. Le vieux Peter Taugwalder d'abord, puis le jeune Peter Taugwalder, et enfin Edward Whymper, deux guides médiocres et un excellent grimpeur. Selon toute logique, le très expérimenté guide Croz aurait dû diriger l'expédition, prendre les décisions en plus d'ouvrir le chemin. Mais bien qu'il pilotât la descente dans ce passage délicat au-dessus du surplomb à pic, c'était toujours Whymper qui commandait les opérations. Et Croz avait déjà largement de quoi faire. Même si Hudson stabilisait par moments Lord Francis Douglas, Croz se chargeait d'un ado beaucoup plus anxieux et beaucoup moins agile, et devait placer les pieds de ce dernier dans les bonnes niches et prises à chaque pas. Tout ça en cherchant la voie la plus sûre dans la descente, puis à droite pour rejoindre l'arête plus facile. Et ainsi, les sept entreprirent de descendre le passage délicat entre le sommet et le surplomb recourbé que Jean-Claude, le diacre et moi venons de franchir. Mais juste au-dessus de l'endroit où nous nous tenons, l'endroit fatal, Lord Francis Douglas, le plus jeune, eut le courage et l'intelligence de suggérer qu'ils s'encordent tous et descendent ensemble, en une seule équipe, ainsi qu'il l'avait fait dans la montée. J'ignore pourquoi Whymper ou Croz ne l'avaient pas proposé avant. En réalité, cela n'offrait pas beaucoup plus de sécurité. Ce passage délicat de la descente du Cervin, sous le sommet et au-dessus du surplomb en forme de vague, est difficile aujourd'hui, en 1924, malgré les cordes fixes et les voies clairement établies, et bien que la plupart des pierres disjointes aient déjà été délogées par les précédents grimpeurs. À l'époque de Whymper, il l'était encore davantage, en particulier en termes de dangers objectifs, tels les chutes de pierres. Mais le plus grand danger ici, autrefois et maintenant, tient au fait que si les niches prises de mains et de pieds sont minuscules et difficiles à trouver, il n'y a pratiquement aucun rocher ou surface plate auquel s'accrocher pour l'assurage. De sorte que si les sept grimpeurs, en particulier les amateurs, se sentaient plus rassurés une fois Whymper et les deux Taugwalder attachés à la cordée, alors même que la corde reliant le vieux Peter à Lord Francis Douglas était inadaptée, comme on le découvrit plus tard, le nouveau système n'offrait guère de sécurité supplémentaire. Puis, tout arriva d'un coup. Malgré l'interrogatoire des témoins quelques jours plus tard à Zermatt, dans le cadre d'une enquête judiciaire, malgré les récits de Whymper et des autres survivants parus dans la presse ou dans des livres, malgré les milliers d'articles que les journaux consacrèrent à l'événement, personne n'est parfaitement sûr de ce qui s'est passé, ni dans quel ordre.
Le plus probable est que le jeune Douglas Adow, le moins expérimenté du lot, ait fait un faux pas et soit tombé, heurtant violemment le guide qui perdit l'équilibre. En moins d'une seconde, leur poids combiné dut arracher le révérend Charlotteson et Lord Francis Douglas de leur minuscule prise. Presque instantanément, 4 des 7 hommes encordés furent précipités vers leur mort. Les 3 autres, le vieux Peter Taugwalder, encore relié à Lord Francis Douglas par un pauvre bout de corde, le jeune Peter et Whimper lui-même, réagirent aussitôt, par réflexe et grâce à des années d'expérience. Seul, le vieux Peter avait une réelle chance d'arrêter la chute grâce à un puissant assurage. Il avait une bonne prise de pied relativement large. En plus, il se tenait sous l'un des rares affleurements de roches de ce passage délicat de la descente et y avait enroulé la corde sans même y penser. Au-dessus de lui, le jeune Peter et Whimper se raccrochèrent d'une main au rocher à leur portée et se cramponnèrent de l'autre à la corde pour tenter un assurage désespéré. La corde se tendit comme une flèche en vol. La chute brutale des 4 corps eut un impact terrible sur les 3 hommes arc-boutés, surtout sur le vieux Peter. La corde lui entailla les mains, lui laissant une affreuse cicatrice qui se n'effaça pas avant des semaines. Dans son désarroi et sa culpabilité, il n'allait cesser de la montrer à qui voulait la voir. Et bien qu'elle eût été enroulée autour du petit affleurement au-dessus du vieux Peter, ou peut-être à cause de ça, la corde se rompit brusquement. 25 ans plus tard, Edward Whimper avoua à un journaliste que le bruit épouvantable de cette cassure lui était resté en mémoire et qu'il s'en souviendrait jusqu'à sa mort. Dans son livre, Whimper écrivit « Pendant quelques secondes, nous pûmes voir nos infortunés compagnons glisser sur le dos avec une vitesse vertigineuse, les mains étendues pour tâcher de sauver leur vie en se cramponnant à quelques saillies du rocher. » Ils disparurent un à un à nos yeux sans avoir reçu la moindre blessure et roulèrent d'abîme en abîme jusque sur le glacier du Cervin, à 1200 mètres au-dessous de nous. Une chute de plus d'un kilomètre dure longtemps. Par chance, si c'est bien le mot, les victimes sont presque toujours mortes et en grande partie démembrées bien avant de terminer leur course. Combien de fois n'ai-je entendu des alpinistes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, décrire l'horrible épreuve que constituent les heures de descente après la chute d'un ou de plusieurs camarades. Ce n'était pas beau à voir. Tous racontaient avoir suivi sur la roche, la neige ou la glace une piste jonchée de sang, tellement de sang, de piolets fracassés, de lambeaux de vêtements et de bottes ensanglantées et toujours de morceaux de corps arrachés. Quand enfin les 3 hommes rassemblèrent assez de courage pour repartir, une demi-heure après la chute de leurs amis, d'après Whimper, qui impute ce délai à des Taugwalder sanglotants et terrifiés. Ils descendirent sur les dalles de l'arête. Ils distinguaient parfaitement la trace sanglante laissée par leurs amis dans leur chute violente, des corps rebondissant d'un rocher à l'autre, ricochant d'un précipice à l'autre, tout le long de l'abrupte face nord du Cervin jusqu'à la surface dure du glacier. Whimper eut toutes les peines du monde à convaincre les guides de Zermatt de retourner sur le glacier pour récupérer les corps. Pendant 2 jours, il dut les supplier, les menacer, en appeler à leur orgueil et leur proposer de l'argent. À l'évidence, les guides locaux, tous membres d'une puissante confrérie, savaient mieux que l'amateur anglais à quoi seraient réduits les corps après une telle chute. Ils évaluaient aussi beaucoup mieux ce que représentait la simple escalade jusqu'au pied de la montagne, décrite par Whimper. L'ascension jusqu'au glacier à la base de la face nord du Cervin était une dangereuse aventure, aussi dangereuse à certains égards que l'ascension de la montagne elle-même, avec des crevasses cachées, des séracs susceptibles de s'effondrer à tout moment, des aiguilles instables et des tours penchées de glace ancienne, des labyrinthes de blocs de roches glacées dans lesquels des hommes pouvaient se perdre, et se perdaient en général, pendant des heures ou même des jours. Mais Whimper finit par rassembler ses volontaires. Volontaires payés, pour la plupart des guides ayant accepté à contre-cœur de partir le lundi, le dimanche il n'était pas question de rater la messe à Zermatt, et ils retrouvèrent les corps. Plus tard, Whimper admit avoir espéré que par quelques miracles, grâce à la neige molle et une improbable glissade de plus d'un kilomètre sur une pente quasi verticale, il retrouverait un ou plusieurs de ses partenaires de cordée vivants. S'il avait su. Les restes de 3 cadavres étaient éparpillés sur la glace et les rochers au pied de la face nord.
Pendant presque tout le temps que les secouristes passèrent sur place, des pierres tombèrent autour d'eux. Mais alors que les guides allaient se mettre à l'abri, Whymper et les autres Anglais qui l'accompagnaient tenaient leur position. Ou pour être plus précis, les Britanniques restaient bêtement et obstinément sur le glacier, bombardés par des cailloux et des blocs de roche comme une pluie de météores. Au début, personne, pas même Whymper, ne put identifier les morceaux de corps. Puis l'Anglais parvint à reconnaître un bout de la barbe de son ami et guide Michel Croz. Les bras et les jambes de Croz avaient été arrachés, ainsi que la plus grande partie de son crâne. Mais il restait un fragment de sa mâchoire inférieure avec une touffe de poils de la couleur de sa barbe. L'un des guides qui revint après l'averse de pierre, un vieil ami de Croz, reconnut des cicatrices sur un avant-bras brisé, échoué à plusieurs mètres, et d'autres sur une main posée au sommet d'un bloc de glace. Étrangement, des lambeaux de pantalon étaient dispersés autour du torse arraché de Croz, et 6 pièces d'or étaient restées dans une poche durant toute la descente. Quelqu'un remarqua que la croix de Croz, sans laquelle il ne grimpait jamais, s'était enfoncée dans le fragment de mâchoire, aussi profondément et solidement qu'une balle de fusil. Robertson, l'un des membres de l'équipe, ouvrit son canif pour l'extraire, songeant que la famille de Croz voudrait peut-être la récupérer. Les restes de Hudson ne furent identifiés que grâce à son portefeuille et une lettre de sa femme qui avait terminé la descente avec lui, contrairement à ses bras, ses jambes et sa tête. Whymper retrouva l'un des gants de Hudson et, en s'aventurant plus loin sur le glacier ensanglanté, ramassa un chapeau anglais à large bord qu'il avait lui-même donné à Croz peu de temps avant. Les membres de Haddo étaient pour la plupart éparpillés entre ceux de Croz et Hudson. Alors que les guides couraient s'abriter d'une nouvelle avalanche de pierres, Whymper demeura près des corps et nota que la corde était toujours attachée entre ce qui restait des torses de Croz et de Haddo, ainsi qu'entre Haddo et Hudson. Il n'y avait pas de trace du corps de Lord Francis Douglas. D'après certains comptes rendus, l'une des bottes du jeune Anglais fut retrouvée, sans pied à l'intérieur. D'après d'autres, ce fut une ceinture que Whymper avait remarquée sur Douglas pendant l'ascension. Un autre témoignage parlait d'un gant. Whymper comprit à ce moment-là que les 3 premiers hommes étaient attachés par une corde épaisse et solide, tandis que celle qui reliait le vieux Peter Taugwalder à Douglas était plus fine et légère, et d'un modèle rarement utilisé pour s'encorder. Pour Whymper, il ne fit alors aucun doute que le vieux Peter avait délibérément choisi une corde moins fiable, au cas où les 4 premiers hommes auraient chuté. Des années plus tard, le célèbre alpiniste britannique irait presque jusqu'à en accuser ouvertement le vieux guide, par oral et par écrit. À la vérité, cependant, toutes les cordes, même la plus fine que le vieux Peter portait à l'épaule lorsqu'il avait fallu relier Lord Francis Douglas au reste de la cordée, avaient été utilisées indifféremment et sans susciter d'inquiétude particulière pour attacher les grimpeurs au cours de la descente ce jour-là et d'autres. Avant le drame qui avait endeuillé cette journée de triomphe sur le Cervin, Edward Whymper ne s'était tout simplement jamais préoccupé de l'épaisseur relative des cordes, de la résistance à la tension, ni des mathématiques des points de rupture selon les diamètres et les modèles. Personne ne retrouva jamais les restes du jeune Francis Douglas, un fait qui donna lieu à une étrange petite note en bas de page dans cette tragédie. La mère de Lord Francis Douglas, Lady Queensberry, souffrit beaucoup de savoir que son fils n'avait pas été retrouvé, écrivit Whymper. La réalité fut bien pire. Lady Queensberry acquit la conviction morbide que son jeune fils était encore en vie quelque part sur le Cervin, prisonnier d'une grotte de glace peut-être, se nourrissant de lichens et de morceaux de bouquetin et buvant la neige fondue qui tombait dans sa prison. Son bien-aimé Francis était peut-être, très probablement, songeait Lady Queensberry, blessée, incapable de redescendre seule ou même de trouver un moyen d'alerter ceux qui se trouvaient en bas. Des hommes d'honneur, tels le professeur John Tyndall, qui avait failli participer à la première ascension de Whymper, retournèrent alors au Cervin pour mener des recherches systématiques. Il écrivit à Lady Queensberry la promesse suivante. « Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener à bien la tâche difficile et dangereuse, quoique nécessaire à votre tranquillité d'esprit, de retrouver et de ramener la dépouille de votre courageux fils sur sa terre natale et le berceau de ses ancêtres. »
Mais la mère de Douglas ne se souciait pas qu'on lui ramène le corps de son cher Francis. Elle était persuadée qu'il avait survécu et voulait qu'on le retrouve. Elle mourut en croyant que Lord Francis Douglas respirait encore, coincé quelque part en altitude sur la face nord du Cervin, ou errant dans les cavernes froides et bleues sous le glacier au pied de la montagne. Le diacre nous arrête donc au milieu du passage délicat de notre descente. Figé à quelques mètres au-dessous de lui, Jean-Claude et moi sommes de plus en plus frigorifiés. La face nord est à présent complètement dans l'ombre, et le vent refroidit en hurlant de plus en plus fort. Et nous nous demandons, du moins, je me demande, à quoi peut bien jouer ce vieux Richard Davis Deacon? Est-ce le début de la sénilité? Après tout, bien qu'en meilleure condition physique que je ne le suis à 22 ans, le diacre a atteint l'âge canonique de 37 ans, le même que George Mallory lors de sa disparition dans l'Everest. « C'est ici, » dit doucement le diacre, « l'endroit précis où Croz, Addo, Hudson et Lord Francis Douglas ont chuté et sont tombés de la pique. » Il pointe le doigt à seulement 10 ou 15 mètres en contrebas, là où la crête voûtée du surplomb pittoresque du Cervin se transforme en précipice mortel. « Merde !» s'exclame Jean-Claude, exprimant notre sentiment à tous deux. « Tout le monde sait ça, et vous le savez. Ne nous dites pas, Richard Davis Deacon, ancien professeur que vous êtes, que vous nous avez entraînés dans cette lamentable descente sans corde fixe, alors qu'il y en a une dizaine à notre disposition à 30 pas à droite, et que je serais ravi de planter un piton pour en accrocher une neuve si ça vous fait plaisir. Ne nous dites pas que vous nous avez fait passer par ici uniquement pour nous raconter une histoire que tous les amis des Alpes connaissent depuis qu'ils sont en culotte courte. Ça suffit, tirons-nous de là !» Aussitôt, nous traversons résolument vers la droite, en restant conscients du vide au-dessous de nous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions sur les dalles relativement sûres. Une série de marches, ainsi que Whymper décrivit un jour l'arête, après avoir abandonné le côté italien, en dalle positive, pour tenter cette arête suisse. Là, nous nous décordons, et malgré le danger permanent de chute de pierre ou de glissade sur le verglas, la descente devient un morceau de plaisir, comme le dit parfois Jean-Claude. Nous savons maintenant que, à moins d'une mauvaise surprise, nous atteindrons le refuge du Hurnley à 3260 mètres avant la nuit noire. Cette cabane est assez confortable, considérant qu'elle est perchée sur une étroite saillie et collée à la montagne. Aux deux tiers du chemin, nous parvenons à une de nos caches où nous avons déposé quelques vivres, de l'eau et des couvertures pour le refuge. Elle se trouve à l'endroit même où Whymper et son groupe laissèrent leur sac à dos pendant leur ascension. Que durent ressentir et penser les trois survivants lors de leur silencieuse descente, lorsqu'ils prirent les quatre sacs de leurs amis décédés pour les remporter avec eux dans la vallée? Je suis d'humeur morbide et déprimée comme jamais. Ma semaine au Cervin touche à sa fin, concluant des mois d'escalade avec ces deux hommes. Que vais-je faire maintenant? Rentrer à Boston et tenter de trouver un emploi? Les études de lettres conduisent en général à enseigner la littérature à de jeunes étudiants qui s'en foutent comme de leur première chemise, et l'idée de gagner ma vie dans la cinquième bulge du huitième cercle de l'enfer scolaire achève de me décourager. Jean-Claude a également l'air très malheureux, même s'il a un formidable métier de guide qui l'attend à Chamonix. Proche ami du diacre, il paraît désolé de voir s'achever ses longues vacances placées sous le signe de la grimpe et de la camaraderie. De son côté, le diacre sourit comme un bienheureux. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais vu un grand sourire sur le visage de Richard David Deacon. Un sourire ironique, oui, mais un sourire d'être humain normal. Un grand sourire épanoui qui plus est. Oh oh, ce sourire cache quelque chose. Si sa voix trahit son excitation, il parle lentement et d'un ton que son accent de Cambridge rend encore plus cérémonieux. Et il nous regarde dans les yeux l'un après l'autre, ce qu'il fait rarement. « Jean-Claude Clairoux, » dit-il, « Jacob William Perry, voudriez-vous m'accompagner dans une expédition tout frais payée pour gravir l'Everest au printemps et au début de l'été prochain ? Nous serons les trois seuls alpinistes du groupe, qui comprendra aussi les indispensables porteurs, dont quelques sherpas pour nous aider à établir les campements en haute altitude. Trois grimpeurs uniquement, trois hommes pour attaquer le sommet. Nous trois. » En réponse à cela,
Jean-Claude et moi, sachant qu'il s'agissait forcément d'un pur délire ou d'une mauvaise farce, devrions nous écrier « Ne dites pas n'importe quoi » ou « Allez raconter ça à des bleus, le rosbif !» Mais, comme la proposition vient du diacre, le jeune guide français et moi échangeons un long regard avant de nous tourner vers lui. D'un ton solennel et presque à l'unisson, nous répondons « Oui, nous viendrons. » Et c'est ainsi que l'aventure commence.